Bonjour, il est 21h et bienvenue à l'Happy Hour Scientifique en direct sur Radio Campus Paris.
L'Happy Hour Scientifique.
Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux!
Bienvenue, Munich.
Nous sommes le 18 avril, c'est l'anniversaire de la mort d'Albert Einstein. Mais bon, on entend souvent parler de lui. Donc on a décidé, à cette occasion, de vous parler plutôt de la première femme d'Einstein, Mileva Maric, une brillante physicienne effacée sous l'ombre d'Einstein. Qui était-elle? Quel a été son rôle dans l'élaboration des travaux du célèbre scientifique? On en profitera pour parler d'un phénomène bien trop courant dans l'univers de la science, l'invisibilisation des femmes. Ça sera l'occasion aussi de parler de physique. Pour l'émission d'aujourd'hui, la formule du cocktail de l'Happy Hour scientifique change un peu. Notre invitée n'a pas pu se rendre sur place pour participer en direct à l'émission. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'y contribuera pas. On accueille Pauline Gagnon, physicienne au CERN. Bonjour Pauline Gagnon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes physicienne au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, autrice d'un livre de vulgarisation scientifique sur les particules de physique, « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver ?» et vous êtes l'une des rares spécialistes de Mileva Maric Einstein.
Bonjour Ilana.
Bonjour. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Hilaria, qui nous rafraîchira avec son coup de cœur de l'actualité scientifique. Cléo, qui nous parlera de l'effet Matilda.
Yeah.
Marie, pour nous plonger dans le monde de la relativité.
Hello.
Sacha, pour nous parler un peu d'histoire.
Salut.
Alice, pour animer le Caps ou pas Caps.
Ouais.
Et à la technique, PA. Pour rentrer dans le vif du sujet, place à l'extrait sonore du jour.
L'histoire de l'homme. Albert Einstein. Quand on pense génie, on pense au grand Albert Einstein, homme sympathique, immortalisé les cheveux hirsutes, tirant la langue et surtout père de la physique moderne. Un mythe.
E égale MC2, c'est aussi grâce à moi. Mileva Einstein.
Ah non, je sais qui vous êtes, madame Einstein. Vile femme. Quand vous avez divorcé, vous avez voulu lui soutirer l'argent du prix Nobel en racontant que vous aviez participé à ses travaux. Pourtant, votre nom n'apparaît sur aucun de ses articles.
Un article signé par une femme risquait d'être moins pris au sérieux. Et puis je voulais que ce soit lui qui ait la reconnaissance. Je suis plutôt humble et discrète.
C'est tout à votre honneur. Et votre rôle est important, le doux foyer, les enfants, la cuisine, tout ça vous lie à votre mari, c'est normal.
Nous étions aussi liés par l'école polytechnique de Zurich où j'avais de meilleures notes que lui. Nous avons fait le même sujet de thèse. Une fois mariés, nous avons continué à travailler ensemble. Et il y a toute une correspondance qui le confirme.
Pauline Gagnon, donc nous avons entendu dans cet extrait sonore tiré de l'émission Chercher la femme, qui est produite par Arte, que lorsque Mileva et Albert ont divorcé, Mileva aurait essayé de soutirer l'argent du Nobel d'Albert en racontant qu'elle avait participé à ses travaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la véracité de ces propos? Est-ce que Mileva Maric a vraiment participé aux travaux de Albert Einstein?
Oui, elle y a participé, mais l'extrait lui-même était terriblement biaisé, c'est parce que, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas essayé de soutirer de l'argent comme si elle essaye de s'en prendre à lui de façon malhonnête. Non, au contraire, c'est son avocat, lors de leur entente de divorce, qui a tout simplement réussi à obtenir cette clause en 1919, lorsqu'ils ont divorcé, de dire que dans l'éventualité où Albert Einstein recevrait le prix Nobel, l'argent irait à Mileva. Et Albert, c'était quelqu'un qui tenait beaucoup à l'argent. Alors, s'il a accepté cette clause, c'est que d'une certaine façon, il reconnaissait que oui, Mileva avait droit à une partie du prix Nobel. Alors, lui s'est réservé toute la gloire, mais elle, au moins, aurait une compensation financière.
D'accord. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles ont été les contributions exactes de Mileva aux travaux d'Albert Einstein?
Non, ça, on n'en a absolument aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que pendant presque 20 ans, ils ont collaboré très étroitement. À partir du moment où ils se sont rencontrés, dès la première année où ils étaient tous les deux étudiants à l'École polytechnique de Zurich, ce qui est maintenant le ETH, et ils étaient tous les deux admis dans la section de physique et mathématiques. Et ils étaient inscrits dans la section physique. Et ils sont devenus très vite très, très proches l'un de l'autre. Ils étaient passionnés tous les deux de physique, de musique, et très, très rapidement l'un pour l'autre. Et effectivement, ils ont fait leurs études ensemble. Et durant cette période, lorsqu'ils étaient séparés durant les congés scolaires, ils retournaient dans leur famille. Mileva dans sa famille en Serbie et Albert dans sa famille qui avait... Originellement, ils étaient d'Allemagne, mais ils avaient déménagé à Milan. Donc, et durant ces périodes, pendant à peu près 7-8 ans, ils ont échangé des lettres. Et dans ces lettres, c'est là qu'on voit qu'ils ont participé, qu'ils travaillaient ensemble à leurs travaux. Par exemple, il y a une lettre de 1901 où Albert Einstein écrit à Mileva Maric: « Ah, que je serai fier le jour où nous aurons tous les deux ensemble, nous aurons complété nos travaux sur le mouvement relatif. »
Ouais.
Alors, c'est très clair qu'ils travaillaient à ce moment-là sur la relativité restreinte. Donc, E égale MC2 et tous ces trucs-là se sont faits à cette époque-là. De même que leurs travaux sur l'effet photoélectrique et sur le mouvement brownien, qui est quand les molécules bougent à l'intérieur d'un liquide. On voit ça dans un verre d'eau, s'il y a un peu de poussière, on voit bouger. Et c'est ce qui a prouvé pour la première fois l'existence des molécules. Alors, c'est ce que Albert et Mileva ont fait ensemble. Alors, à travers leurs lettres, on se rend compte qu'ils travaillaient très étroitement. Mais il y a eu un événement marquant, c'est que lorsque Mileva et Albert avaient des notes tout à fait semblables pour leurs examens écrits, alors Mileva très légèrement supérieure à celle d'Albert, mais essentiellement égale.
Oui, de 0,1 point, je crois.
pratiquement rien, mais... Ce qui était clair, c'est qu'ils étaient tous les deux très bons dans les épreuves écrites. Mais il y a eu l'épreuve orale, et là, c'était un examinateur qui posait des questions. D'ailleurs, l'étudiante devait répondre en écrivant au tableau noir. Mileva, ils étaient cinq étudiants dans la classe de Mileva. Ils étaient cinq au total, quatre hommes et elle-même, une femme. Et les quatre hommes ont réussi à avoir, ont reçu une note de 11 sur 12. La note maximale pour l'examen oral, pour l'épreuve orale. Mileva, on lui a donné 5 sur 12.
Ah oui.
Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve parce que après l'épreuve, le professeur peut simplement effacer ce qu'elle a mis au tableau et tout ça. Et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé derrière la porte close.
On n'a pas la justification de pourquoi Mileva a eu
une note si
basse. Il faut bien comprendre qu'en 1900, lorsqu'elle a pris l'examen oral, l'Université de Zurich était la seule université de langue allemande, qui acceptait des femmes en Europe. Ce n'était pas possible en Autriche ou en Allemagne, par exemple, pour les femmes d'étudier. Alors, Mileva, ça faisait à peu près une cinquantaine d'années, 46 ans, que Zurich avait commencé à accepter des femmes. Mileva n'était que la cinquième à avoir été acceptée dans la section de physique et mathématiques. Elle était la première en physique. Mais aucune des autres femmes n'avait reçu leur diplôme avant. C'est très évident qu'il y avait encore un préjudice très fort contre les femmes. Même s'ils les acceptaient, ces femmes-là payaient pour prendre des cours. Alors, c'était quand même... L'université avait un certain intérêt à les prendre. Mais on ne leur avait jamais accordé de diplôme. La première femme à obtenir un diplôme l'obtiendra 2 ans plus tard, en 1902. Elisabeth Stefansson, qui était une étudiante d'origine norvégienne, qui a eu le premier diplôme en mathématiques. Mileva était la première en physique et je ne sais pas combien de temps ça a pris pour qu'une femme obtienne un diplôme en physique de l'École polytechnique de Zurich.
D'accord.
Oui, je n'ai pas été capable de trouver dans leurs archives.
Et je crois avoir lu qu'il y a une postérité qui demande à l'Université de Zurich de diplômer Mileva Maric a posteriori, mais que ça a été refusé par l'Université de Zurich.
Oui, alors ça fait plusieurs années qu'une physicienne italienne, Gabriella Grayson, en a fait la demande officielle. Et quand j'ai appris ça, moi aussi j'ai décidé, ah ben oui, c'est une très bonne idée. Alors j'ai aussi contacté l'université, je suis même allée donner une présentation là-bas sur Mileva Maric pour expliquer quelle était la situation. On me dit qu'on étudierait le cas, mais il ne se passe absolument rien. Alors effectivement... C'est très clair que ces femmes, non seulement Mileva Maric, mais les quatre autres femmes avant elle et plusieurs après elle, ont subi une discrimination énorme due à leur genre. Et c'est pour ça que j'estime que l'Université de Zurich devrait leur accorder leur diplôme, tout comme ça a été fait par l'Université de Glasgow il y a quelques années, qui a accordé leur diplôme aux 7 premières femmes qui s'étaient inscrites à l'université, à l'école de médecine. Mais les étudiants, les hommes étudiants en médecine cette année-là, avaient fait une révolte. Ils s'étaient mis à lancer toutes sortes d'objets aux femmes pour les empêcher de prendre l'examen final. Alors, ces femmes-là n'ont jamais eu leur diplôme. Ah. Alors, une centaine d'années plus tard, on leur a accordé leur diplôme. Et l'Université de Cambridge, aussi au Royaume-Uni, leur a accordé leur diplôme à 900 femmes qui n'avaient pas eu leur diplôme entre, je ne sais plus trop quelle année, et 1946, l'année où la première femme avait reçu un diplôme.
Pour parler un peu plus de la personnalité de Mileva, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qui elle était, d'où elle venait et qu'est-ce qui l'a menée vers la physique?
Alors, c'était une femme extrêmement brillante et très douée. Elle était douée pour les langues, pour le dessin, pour la musique et aussi pour les mathématiques et la physique. Ses compagnes de classe parlent d'une jeune fille très réservée qui savait toutes les réponses, mais qui ne levait jamais la main en classe pour les donner, même si elle les savait toutes les réponses. Et donc, c'était quelqu'un de très réservé qui ne se mettait jamais de l'avant. En plus, elle est née en Vojvodina, qui est maintenant, qui fait partie de la Serbie. Mm-hmm. Et elle est née en 1875. Cette partie de la Serbie faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Et à l'époque, les jeunes filles n'étaient pas admises à l'école secondaire. Alors, son père a dû obtenir une permission spéciale pour Mileva pour qu'elle puisse assister aux cours de physique avec les garçons à l'école secondaire. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est rendue à Zurich pour terminer son cours secondaire et éventuellement elle s'est inscrite à l'école polytechnique pour le cours de physique. Elle était vraiment brillante parce que pour réussir à l'examen d'entrée, c'était quand même pas facile. Mmh. Albert Einstein n'a pas réussi l'examen d'entrée à sa première tentative. Il a fallu qu'il s'y prenne à deux fois. Donc, c'était vraiment une école de haut niveau prestigieuse. Mileva y avait été acceptée, donc on peut savoir qu'elle était très brillante. Mais elle venait d'une famille en Serbie à l'époque. C'était une société très patriarcale et son père prenait toutes les décisions dans la famille. Elle était très chanceuse parce que son père a vu très vite qu'elle était très douée et lui a donné toutes les chances pour aller étudier à l'étranger et tout ça. Mais sa mère ne joue pas un rôle très, très secondaire dans sa vie. C'est à peine si on entend parler. Donc, et elle a été élevée avec la certitude et la conviction que son rôle, c'était d'assister son mari et de tout faire pour que son mari réussisse. Oui. Alors, lorsqu'on l'a refusée à l'examen oral, elle va être refusée deux fois à deux années différentes à l'examen oral, et elle n'aura donc pas son diplôme. Albert a reçu son diplôme, même s'il n'avait pas la note de passage, bon, mais lui, un homme, on lui a quand même donné son diplôme.
Oui, c'est une terrible injustice qui a été faite à Mileva, en fin de compte.
Oui, et Albert était tellement insolent et désagréable, en particulier avec un professeur en particulier, le professeur Weber, qui l'appelait toujours Monsieur Weber, au lieu de l'appeler professeur Weber, comme c'était la coutume. Donc, il s'était mis à dos plusieurs personnes et il soupçonnait que le professeur Weber, justement, s'en est pris à lui et écrivait des lettres de recommandation très négatives à son sujet. Et pendant 3 ans, Albert était incapable de se trouver un poste après avoir reçu son diplôme, alors que tous les 3 autres étudiants de la même promotion ont obtenu des postes aussitôt, des postes académiques comme assistant professeur, à l'Université de Zurich ou ailleurs et ont pu faire carrière. Mais Albert ne réussissait pas. Il disait, il a écrit dans une lettre à Mileva, « Bientôt, j'aurai envoyé mon curriculum vitae à tout le monde en Europe et je n'arrive pas à me trouver d'emploi. Oui. » Et c'est pour ça qu'on le voit dans leur lettre, ils réfèrent tous les deux à un article sur la capillarité, oui, qui sera le premier article qu'Albert va publier. Oui. Ils réfèrent tous les deux à cet article en parlant de notre article. Et oui, tous les deux travaillaient là-dessus. L'article publié en 1901, mars 1901, mais il est signé seulement du nom d'Albert Einstein. Mm-hmm. Et ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce que Mileva avait été élevée de façon très patriarcale et son rôle, c'était de soutenir son époux ou son futur époux. Mm-hmm. Et ils parlaient de se marier tous les deux. Ouais. Et pour elle, c'était très normal de faire tout ce qu'elle pouvait pour aider Albert à trouver un emploi. Parce qu'Albert disait, son père avait fait faillite, alors ils n'avaient pas d'argent dans la famille. Et Albert disait, je ne peux pas t'épouser tant que je n'aurai pas un travail, mm-hmm. parce que je ne peux pas te faire vivre.
Oui, et je crois que la mère de Albert Einstein n'aimait pas du tout Mileva Maric.
Oui, elle n'aimait pas du tout Mileva Maric, même si elle ne l'avait jamais rencontrée, oui. simplement dû à des préjugés très, très forts contre les Serbes, mm-hmm. contre le fait que Mileva n'était ni juive ni allemande, comme l'était la famille d'Albert. Et en plus, Mileva avait un problème congénital à la hanche qui faisait qu'elle boitait.
Oui.
Donc, pour Pauline Einstein, la mère d'Albert, ce n'était pas du tout une personne convenable pour leur famille bourgeoise, la famille bourgeoise dont elle venait, mais même si son mari, Hermann Einstein, était un industriel raté. Et elle s'opposait au mariage d'Albert, de même que le père d'Albert qui disait à son fils, tant que tu n'auras pas un emploi, je ne te donnerai pas la permission de te marier.
Pauline Gagnon, dans un article vous sur Mileva, vous écrivez qu'Einstein aurait dit « J'ai besoin de ma femme, elle résout pour moi tous mes problèmes mathématiques ». Phrase que Mileva aurait confirmée elle-même. De plus, on apprend que lorsqu'ils étaient tous les deux à l'école polytechnique de Zurich, Albert, il était moins bon qu'elle en physique appliquée par rapport à Mileva, qui, elle, était
bon,
plus
excellente.
Et du coup, on a l'impression que Mileva est peut-être plus pragmatique que lui dans les recherches.
Plus pragmatique, ça c'est certain, parce que Albert, c'était un peu à la voix comme je te pousse. C'était un bohème et un rebelle et il était très désorganisé. Mm-hmm. Mileva était très, très organisée et systématique dans son approche et c'est elle qui guidait ses lectures et ses études. Mais donc, Albert n'aurait jamais réussi. Albert Einstein serait absolument inconnu si ce n'avait été du soutien qu'il a eu de Mileva, soutien émotif, mais aussi soutien au niveau de la physique et des articles, parce qu'ils ont tout fait ensemble. Et Albert signait tout seul les articles parce qu'elle voulait qu'il se fasse un nom pour qu'il puisse obtenir un emploi. Oui. Tout son bonheur dépendait de cela. Mm. S'il pouvait obtenir un emploi, il aurait pu la marier. Donc, et plus tard dans la vie, oui, effectivement, Albert s'est vanté que Mileva l'aidait qu'elle résolvait tous ses problèmes mathématiques pour lui. Mais on le voit aussi dans une autre lettre qu'Albert lui-même a écrite à Mileva vers 1907, je crois, 1908. Mileva était allée rendre visite à sa famille en Serbie durant les vacances de Pâques et Albert avait dû rester à Berne parce qu'il travaillait au bureau des brevets. Mileva est parti pendant presque un mois ou 5-6 semaines, il est parti pour une période assez longue. Et Albert avait embauché un jeune étudiant ou un postdoc pour l'aider à faire ses calculs. Et il écrit dans une lettre à Mileva, « Bon, il n'est pas très drôle et tout ça, mais au moins, il me fait mes calculs parce que sinon, moi, je n'aurais jamais le temps de les faire. Oui. » Et lui dit, « Reviens vite parce que j'ai vraiment besoin de toi. » Albert avait vraiment besoin de Mileva pour aussi discuter de tous ces problèmes complexes.
Oui. Oui, donc, vraiment
sur lequel ils ont travaillé toute la période. Et, Albert Einstein l'a admis plus tard à un de ses biographes que l'effet photoélectrique avait été avec lui pendant plus de 5 ans avant de publier en 1905 et la relativité restreinte plus de 7 ans. Et ça remonte à la période où ils étaient étudiants et qu'ils passaient tout leur temps ensemble. À étudier dans la chambre d'étudiantes de Mileva, où ils passaient tout leur temps ensemble à discuter, lire des articles et calculer et penser à leurs théories ensemble.
Pour s'immerger à ce moment de l'histoire, Sacha va nous présenter sa reconstitution des échanges épistolaires entre Albert et Mileva.
La relation entre Albert Einstein et Mileva Maric a été passionnelle jusqu'à devenir déchirante. Faite d'amour, d'affection intellectuelle commune pour la physique, mais aussi de drame et de trahison. Longtemps laissée dans l'ombre, leur correspondance est rendue publique en 1992 dans un ouvrage intitulé « The Love Letters », édité par Jürgen Renn et Robert Schulman de l'Université de Princeton. On a cependant retrouvé davantage de lettres d'Albert à Mileva, 43, que de Mileva à Albert, 11. ce qui peut bien sûr biaiser notre vision. Néanmoins, je vous propose ici une plongée reconstituée dans leurs échanges épistolaires et leur histoire d'amour. Albert et Mileva se rencontrent à l'école polytechnique de Zurich en 1896. Mileva, 21 ans, est une jeune Serbe venue étudier en Suisse, seule fille de la classe. Albert, 17 ans et demi, est un jeune Allemand quelque peu dissipé. Tous deux étudient ensemble, d'une même passion pour la physique et la musique. Et ils deviennent amis avant de devenir amants.
Oh mon Dieu! Ce garçon, ton Johnny, si fou de désir en pensant à sa Dolly, son oreiller prend feu. Comme c'était beau la dernière fois que tu m'as laissé presser ta chère petite personne contre moi, si naturellement.
Les amis de Mileva témoignent qu'Albert passe son temps chez elle. Il va et vient, lui emprunte sans cesse des livres. Albert a l'esprit vagabond, désorganisé et rebelle. Mileva, brillante mais plus timide, est davantage méthodique et creuse plus en profondeur les problèmes. Elle l'aide à canaliser son énergie virevoltante et lui apprend une certaine rigueur dans le travail. En 1897, Mileva part étudier un semestre à Heidelberg, alors qu'Albert reste à Zurich. Elle revient 6 mois plus tard, sans diplôme, car l'examen est là-bas réservé aux hommes. Alors qu'Einstein est fasciné par les rouages de la physique, Marie est distante, observant avec nostalgie le spectre de ses professeurs d'université.
Les êtres humains sont si nombreux et ont accompli tant de choses que j'ai pu observer. Une fois de plus dans le cas des professeurs de Heidelberg.
Albert obtiendra de justesse son diplôme en 1900. Mileva, elle, rate l'examen, notamment à cause de l'épreuve orale. Lettre d'Albert à Mileva du 6 août 1900.
Sans toi, je ne me sens pas entier. Quand je suis assis, j'aimerais marcher. Quand je marche, j'ai hâte d'être à la maison. Quand je m'amuse, j'aimerais être en train d'étudier. Et quand j'étudie, je manque d'énergie. Et quand je vais au lit, je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai fait de ma journée. Sois heureuse, mon cher petit cœur. Je t'embrasse tendrement, ton Albert.
Mileva retente l'examen l'année suivante, mais le rate à nouveau. Il faut dire qu'elle est enceinte de 3 mois d'Albert, sans être mariée, ce qui est peu enviable comme situation à cette époque. Lettre de Mileva à Hélène Savitch, une de ses amies les plus proches, automne 1901.
J'ai abandonné mes études, en dépit du fait que grâce à Weber, je n'ai pas obtenu mon diplôme de doctorat. À cause de lui, j'ai beaucoup souffert et je ne veux plus jamais retourner vers lui.
Mileva retourne chez ses parents et accouche de leur fille, Liesel. Enfant qui disparaît dans la nature. Est-elle adoptée ou décédée de la scarlatine? Sa trace est à ce jour toujours introuvable. Albert, alors parti à Milan, lui écrit.
Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux, ensemble, mené notre travail sur le mouvement relatif à une conclusion victorieuse.
Preuve de leur collaboration, Albert et Mileva se marient en janvier 1903 à Berne, avec la présence seule de 2 témoins. Ils habitent désormais ensemble. Albert travaille au bureau des projets et elle s'occupe des tâches domestiques. Mileva annonce à Albert qu'elle est enceinte, à nouveau, et celui-ci lui répond.
Je ne suis pas le moins du monde fâchée que la pauvre Dolly couve un nouveau poussin. Je suis heureux et j'avais déjà réfléchi à la question de savoir si je ne devrais pas veiller à ce que vous obteniez une nouvelle Liesel. Après tout, vous ne devriez pas être privé de ce qui est le droit de toutes les femmes.
Ils auront par la suite 2 autres enfants. Hans Albert, né en 1904, et Edward Tett, né en 1910. Lettre de Mileva à son amie Hélène, 1909.
Avec toute cette gloire, il a peu de temps pour sa femme. Que peut-on faire avec la notoriété? Une personne reçoit la perle, l'autre, la coquille.
Le mariage bat de l'aile. Albert devient un physicien très renommé de par la publication de 5 articles majeurs pour la physique en 1905, l'année miraculeuse. Effet photoélectrique, mouvement brownien, relativité restreinte et E égale MC au carré. Les idées révolutionnent la physique et Mileva y aurait contribué. Mileva à son père lors d'une visite à Novi Sad en Serbie, 1905.
Nous venons de terminer un travail de recherche scientifique très important qui va rendre mon mari célèbre.
Ils se séparent en 1914 et divorcent 4 ans plus tard, l'année où Albert se remarie avec sa cousine Elsa, avec qui il entretient une liaison depuis 1912. Le contrat de divorce stipule que Mileva obtiendra l'argent d'un éventuel prix Nobel, ce qui arrivera 2 ans plus tard pour la découverte de l'effet photoélectrique. En 1925, Albert Einstein veut ajouter à son testament que l'argent du prix Nobel était l'héritage de ses fils. Mileva Maric proteste et menace de révéler son apport aux recherches d'Albert Einstein. Il se fend alors d'une lettre incisive.
Mais tu m'as fait vraiment rire quand tu as commencé à me menacer de tes mémoires. T'est-il jamais venu à l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, que personne ne prêterait la moindre attention à tes salades si l'homme dont tu parles n'avait pas accompli de quelque chose d'important? Quand une personne est quelqu'un de complètement insignifiant, il n'y a rien d'autre à dire à cette personne que de rester modeste et de se taire. C'est ce que je te conseille de faire.
On a l'impression indubitable qu'Einstein s'est renforcé grâce à sa relation avec Mileva, alors que elle se sentait de plus en plus affaiblie et désespérée. Sans dénigrer l'importance des travaux d'Albert Einstein, ses lettres nous montrent que l'Einstein que nous cherchons, le mythe du génie absolu et solitaire, n'existe pas. Du moins, il est à relativiser, et il faut considérer ses nombreux collaborateurs et collaboratrices. Il est donc temps de réclamer justice pour Mileva Maric et pour toutes les femmes oubliées de l'histoire des sciences, et pas seulement. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. About little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy.
On vient d'écouter It's a man's, man's, man's world de Etta James.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
De retour à l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris. On écoute maintenant Marie qui va nous expliquer un des travaux majeurs du couple Einstein dans sa chronique.
Bonjour tout le monde. Bon, moi, comme c'est ma première chronique, je me suis dit qu'il valait mieux rester humble et parler de quelque chose de pas trop compliqué. Donc, j'ai décidé de vulgariser une des théories du couple Einstein. Allez, c'est parti. Pauline Gagnon l'a dit. Mileva aurait participé notamment aux travaux sur le mouvement brownien, sur la relativité restreinte, sur l'effet photoélectrique. C'est beaucoup, beaucoup de choses et ça aurait été difficile de vulgariser correctement tous ces travaux sur le temps de ma chronique. J'ai donc dû faire un choix. Tiens, autour de la table, si je vous dis les travaux d'Einstein, vous pensez à quoi en priorité ?
La relativité.
Moi, les trous noirs. Vous avez prédit les trous noirs. Et relativité après.
La relativité, ça tombe vachement bien que vous parliez de ça parce que c'est exactement ce dont je vais vous parler.
Nickel.
Bon, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça soit Albert ou Mileva, ils n'ont pas tout inventé. Cette théorie, c'est en quelque sorte le prolongement de la relativité galiléenne, qui date du XVIIe siècle. Pour comprendre, je vais vous décrire une situation. Imaginez que vous êtes dans un train, lancé à vitesse constante. Il faut aussi imaginer qu'il n'y a pas de secousse dans ce train. C'est une expérience de pensée. Si vous lancez une balle devant vous, dans ce train, est-ce qu'elle se comporte différemment que si vous la lanciez sur la terre ferme ?
Non.
Effectivement, non. La réponse est non. Bravo, Sacha.
J'ai écouté en physique.
La relativité galiléenne nous dit que les lois de la physique sont exactement les mêmes qu'on se déplace à vitesse constante ou à l'arrêt. Jusque-là, vous me suivez ?
C'est bon.
Maintenant, dans ce même train de vitesse constante de 100 km/h, on lance toujours une balle à une vitesse de 10 km/h. Un observateur extérieur au train, qu'on va appeler Bébert dans ce cas-là, va voir la balle se déplacer à 110 km/h, soit la vitesse du train plus la vitesse du lancer.
On additionne.
On additionne. En gros, pour passer du référentiel dans le train au référentiel de Bébert à l'extérieur, on additionne les vitesses. Ok ?
C'est bon.
Maintenant, toujours dans votre train, vous prenez votre téléphone et vous allumez votre lampe torche devant vous.
Okay.
Exactement. Si on suit le raisonnement précédent, pour Bébert, la lumière devrait se déplacer à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, plus celle du train, 100 km/h.
Mm-hmm.
Et c'est là que ça coince.
Ah, bah pourquoi ?
Parce que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est l'ultime limite, une loi fondamentale de l'univers. On se retrouve donc face à un paradoxe. Et c'est là qu'Albert et Mileva entrent en scène. Et ouais, avec Galilée, on l'a vu dans le train, pour passer d'un référentiel à l'autre, on modifie uniquement la vitesse, en additionnant. Avec l'Einstein, on modifie la vitesse, mais aussi le temps et les distances.
Mmh.
C'est négligeable dans le cas de notre train un peu mou du genou, mais si le train était lancé à une vitesse proche de celle de la lumière, oui bon, encore une fois, expérience de pensée, train hyper rapide, là, il y a des phénomènes chelous qui apparaissent. Pour l'observateur, dans le train hyper rapide, la longueur du wagon va se contracter. Elle apparaîtra moins grande que vue d'un observateur extérieur. Et le temps aussi, il s'écoulera plus lentement dans le train qu'à l'extérieur. Pour s'approprier un peu cette idée, qui semble un peu saugrenue, une histoire qui est souvent racontée par les physiciens, c'est celle des deux jumeaux. Mais bon, encore une fois, une expérience de pensée, mais je parle de physique théorique, je suis bien obligée de faire des métaphores.
Oui, c'est de l'imagination.
Un des deux jumeaux décide de partir en voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière pendant que 10 ans s'écoulent pour son frère rester sur Terre. Quand le jumeau spatial revient, parce que le temps se sera écoulé moins vite pour lui dans son vaisseau, il sera plus jeune que le jumeau terrestre.
Mmh.
Et ouais. Ce dont je vous ai parlé là, c'est de la relativité restreinte. Si on pousse le raisonnement encore plus loin, et quand je dis « on », bah c'est l'Einstein, ils l'ont fait, on arrive à la relativité générale. Mais j'ai plus vraiment le temps de vous parler encore de ça dans ma chronique. Je vais juste vous donner des mots-clés, vous vous démerderez avec.
Très bien.
Donc la relativité générale, en gros, ça parle gravitation, espace-temps, masse, et pour comprendre tout ça, on utilise une nappe.
D'accord.
Eh ben, prenons une nappe.
Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris ce qu'il était important de retenir de ma petite explication de la relativité restreinte.
Rien ne va plus vite que la lumière ?
Non, non, non. Pour rester jeune sur Terre, il n'y a pas besoin de crème quantique, juste d'un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière. Merci l'Einstein.
Et merci à toi Marie. À présent, on retrouve Hilaria pour nous désaltérer avec ses gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Et oui, bonsoir à tous. Et je vais poser une question. Et est-ce que l'heure de marquer la transformation de la planète par l'homme en lui consacrant son propre chapitre de l'histoire de la Terre, l'Anthropocène, est arrivée ? Vous pouvez y réfléchir, mais les scientifiques, au temps d'un débat qui a duré près de 15 ans, ont décidé que non. Un comité d'environ 2 douzaines de chercheurs a en fait rejeté une proposition visant à déclarer le début de l'Anthropocène, une nouvelle époque des temps géologiques, selon une annonce interne des résultats de vote dont a pris connaissance le New York Times. Et ce vote a été immédiatement contesté et certains membres estimant que la décision était prématurée et qu'il fallait plus de temps pour évaluer toutes les preuves. Mais finalement, l'Union internationale des sciences géologiques a décidé de confirmer les votes, les rendant ainsi officiels. Et selon la chronologie actuelle des géologues sur les 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre, et notre monde se trouve actuellement dans l'Holocène, qui a commencé il y a 11 700 ans avec les retraits des glands glaciaires. Et dire que nous sommes passés à l'Anthropocène signifierait reconnaître que les changements des conditions géologiques provoquées par l'homme ont été assez profonds pour mettre fin à l'Holocène. Et on peut se demander pourquoi ces résultats. En fait, les membres du comité qui ont voté sur l'Anthropocène au cours du mois dernier n'ont pas seulement mesuré l'importance de cette période pour la planète, mais ils se sont également demandé quand précisément elle a commencé. Et selon la définition qu'un précédent groupe d'experts avait proposée, l'Anthropocène a commencé au milieu des 20e siècle, quand les essais des bombes nucléaires ont dispersé des retombées radioactives dans l'environnement. Et pourtant, ces choix et cette terminologie continueront sans doute à être débattus dans les années à venir. Et bien que cela puisse sembler n'être qu'une simple bataille sémantique, et les combats autour de l'Anthropocène est bien plus important. Il s'agit d'un lutte politique sur la manière de donner un sens à ce que nous, les humains, faisons à la planète. Et le découpage du temps est intrinsèquement politique, car les scientifiques ne sont pas les seuls à utiliser les étiquettes géologiques. Les publics, en fait, les utilisent également. Ils figurent dans les manuels scolaires, les expositions muséales et même la musique. Et si certains scientifiques n'étaient pas à l'aise avec l'idée d'utiliser les labels anthropocènes pour faire une déclaration politique sur ce que l'humanité a fait à la planète, d'autres chercheurs l'ont adopté. Et nous sommes dans l'anthropocène, quelle que soit la ligne sur l'échelle des temps, a déclaré Francis McCarthy, spécialiste des sciences de la Terre à l'Université canadienne Brock. Et se comporter en conséquence est notre seul moyen d'aller de l'avant.
Merci Ilaria pour cette actualité scientifique. Retournons à présent dans le vif du sujet, l'invisibilisation des femmes en science. Qu'as-tu à nous dire à propos, Cléo ?
Alors, Mileva Maric, Jocelyn Bell, Lise Meitner, quel est leur point commun ? Ce sont des physiciennes. Mais il y en a un autre. Leurs recherches ont été invisibilisées à cause de leurs conjoints ou de leurs collègues masculins. Nous l'avons vu tout à l'heure avec Mileva Maric. Beaucoup de témoignages de leurs proches indiquent que le couple travaillait ensemble sur leurs recherches. Or, c'est Albert Einstein qui est devenu célèbre pour son génie et qui a reçu le prix Nobel en 1921. Jocelyn Bell a été, elle aussi, évincée de la remise des prix. Un beau jour, alors qu'elle étudiait les enregistrements captés par son radiotélescope, elle remarqua une source lumineuse qui ne correspondait pas au schéma habituel. Le premier pulsar. Une étoile très dense qui tourne rapidement sur elle-même. Son directeur de thèse n'a pas manqué de se positionner en première hauteur sur la publication de la découverte. Résultat, c'est lui, Anthony Hewish, qui s'est vu remettre le prix Nobel de physique pour la découverte des pulsars en 1974. Le rôle décisif joué par l'astrophysicienne Jocelyn Bell est donc resté dans l'ombre. Dans la famille des femmes marginalisées dans l'histoire de la science, je demande Lise Meitner. Avec deux chercheurs chimistes, elle est parvenue à fragmenter de l'uranium en deux noyaux plus légers. C'est le principe de la fission nucléaire. Issue d'une famille juive, elle a ensuite été contrainte de fuir en Suède, mais a continué de correspondre et de collaborer avec ses collègues. Compte tenu de la situation politique, les résultats de leurs travaux ont été publiés sans que Lise ne soit citée. Une fois n'est pas coutume, en 1944, ses associés ont été récompensés du prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur la fission des noyaux lourds. Lise Meitner a été laissée de côté, malgré son importance primordiale dans cette découverte. Ces trois exemples ne sont pas des cas isolés. Ce phénomène s'appelle l'effet Matilda. Il a été théorisé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter en 1993. Il désigne la minimisation, quand il ne s'agit pas de déni, de la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Cet effet a été nommé en référence à Matilda Jocelyn Gage, une militante qui avait remarqué qu'une minorité d'hommes avait tendance à s'accaparer la pensée intellectuelle de femmes. Et ce, dès la fin du XIXe siècle. Finalement, l'effet Matilda est aussi révélateur de phénomènes bien ancrés dans la société, comme les stéréotypes selon lesquels les femmes en sciences seraient moins brillantes, ou encore les freins qu'elles rencontrent pour intégrer les disciplines scientifiques.
Merci Cléo. Écoutons maintenant un extrait de l'entrevue avec Pauline Gagnon, l'invitée du jour, et des raisons qui ont mené Mileva Maric à être victime de l'effet Matilda.
On ne souhaite pas faire le procès d'Einstein lors de cet épisode, mais est-ce que vous pensez qu'il a activement invisibilisé la contribution de Mileva à ses recherches ? Ou est-ce que vous pensez que cette invisibilisation, c'est la conséquence d'un monde scientifique patriarcal qui ne soutient pas les femmes qui y contribuent ?
Il y a les deux. Mais Albert Einstein a joué un rôle majeur. Il n'a jamais admis qu'il avait travaillé avec sa femme. Donc ça, c'est comme un genre d'oubli majeur. Et il y a une lettre aussi qui a été écrite en 1920 ou 22, 25, je ne me souviens plus exactement. Une lettre dans laquelle il semblerait, on n'a pas la lettre originale que Mileva a envoyée à Albert, mais il semblerait qu'Albert avait décidé de modifier son testament. Et il a écrit à Mileva pour lui dire, écoute, l'argent du prix Nobel, tu dois considérer que ça, c'était mon héritage pour mes deux fils. Et Mileva s'est vraiment fâchée en disant, non, tu sais très bien que l'argent du prix Nobel, c'est à moi. Ça faisait partie de notre entente de divorce. Et tu dois léguer quelque chose à tes fils, tu es obligé de laisser quelque chose à tes fils. On a la réponse qu'Albert lui a écrite. Et dans sa réponse, presque textuellement, Albert lui dit « Mais tu m'as fait rire quand tu m'as menacé de rendre public tes mémoires sur notre travail commun. Qui va prêter attention à tes salades quand tu es personne? Tu es une non-entité, tu es complètement négligeable et je te conseille de te taire. » Et après ça, il n'a jamais osé parler. Mais une de ses amies, à qui elle s'était confiée, son amie Milana Botak, avec qui elle habitait quand elle était étudiante, cette femme a confié à un magazine serbe que Mileva s'était confiée à elle et qu'elle lui avait dit qu'effectivement, elle avait toujours travaillé avec Albert Einstein et qu'elle avait contribué au développement de la relativité restreinte.
Oui. Qu'est-ce qui vous a mené, vous, personnellement, à faire des recherches sur Mileva Maric?
Oui, c'est tout simple parce que moi, je suis née en 1955. C'est l'année de la mort de Albert Einstein. Et quand j'étais adolescente, bien sûr, j'étais fascinée par Albert Einstein et tout ça. Et j'ai grandi comme toutes les aspirantes physiciennes. J'ai grandi en pensant être extraordinaire et tout ça, qu'on avait toujours présenté comme étant un génie solitaire et tout ça. Et il y a à peu près une trentaine d'années, j'avais lu un entrefilet dans un magazine féministe où la personne disait que Mileva Maric Einstein avait collaboré aux travaux d'Albert Einstein. Et j'avais été vraiment horrifiée d'apprendre que Albert Einstein, qu'on nous avait toujours présenté comme un grand génie solitaire, était en fait le plus grand des menteurs. Quand on le voit tirer la langue, maintenant, de plus en plus, je me demande, mais à qui il tirait la langue? À nous tous? Il se moquait de nous tous, de nous avoir bernés un après l'autre. Il était présenté comme le plus grand scientifique du siècle, personnalité du siècle nommée par le Times Magazine en l'an 2000. Alors moi, j'ai entendu parler de ça et j'étais révoltée d'entendre que non seulement il y avait une femme extraordinaire dont on n'avait jamais entendu parler comme physicienne, et deuxièmement, que celui qu'on encensait comme le plus grand scientifique, comme l'extrait que vous nous avez parlé tout à l'heure, qui est épouvantable, fait...
C'est-à-dire, on a pris cet extrait, mais à la fin de l'extrait, ils relativisent un petit peu l'histoire. C'est le début qui est peut-être un petit peu... Mais ils essayent de déconstruire justement un peu ce mythe Albert Einstein, comme vous...
Oui, effectivement. Donc, quand la première fois que j'ai lu sur Mileva Maric, c'était en 1989, à peu près, 88-89. Et j'ai essayé... À cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de World Wide Web, il n'y avait pas la toile. Alors, j'ai essayé de fouiller un peu pour demander autour de moi. Personne n'avait entendu parler d'elle. Et ça a vraiment pris des années. C'est en 2012, je crois, 2010-2012, j'étais au CERN. Et c'était une collaboration très internationale. Et une journée, j'ai rencontré une jeune femme d'origine serbe qui était étudiante au doctorat. Je lui ai demandé si elle connaissait Mileva Maric. Elle m'a dit « Bien sûr, en Serbie, c'est une héroïne nationale.
»
Et là, j'ai été estomaquée. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Mileva Maric peut être une héroïne nationale en Serbie et être tout à fait inconnue ailleurs dans le monde? Alors, je lui ai dit, alors on va unir nos forces et on va essayer de trouver le fin fond de cette histoire. Alors, on est allé à la bibliothèque du CERN et là, eux, ils avaient quand même quelques livres sur elle. Et quelques années plus tard, en 2013, il y a un livre qui est paru... écrit par une professeure d'histoire, Madame Radmila Milentijević, qui a écrit un livre, une excellente biographie, très documentée sur Mileva Maric, qui s'appelle « Vive avec Albert Einstein ». Et c'est vraiment une excellente biographie, je vous la recommande.
On la lira.
Et là, j'ai pu apprendre toute l'histoire de Mileva Maric. Depuis une dizaine d'années, je donne des conférences publiques sur elle. J'ai écrit beaucoup. Je travaille en ce moment sur une série télévisée pour parler de Mileva Maric et d'autres femmes en sciences qui ont été oubliées.
Oui, mais c'est important parce que c'est un combat qui est assez controversé. On voit qu'il y a certains historiens des sciences qui perdurent le mythe d'Albert Einstein et qui disent qu'il n'y a aucune preuve que Mileva Maric a contribué.
Oui, mais qui participe du coup d'autant plus à l'invisibiliser.
La meilleure preuve qu'on a, effectivement, il n'y a pas d'article signé en commun. Il n'y a pas de documents écrits de la main de Mileva, à part des documents secondaires, quelques documents secondaires qui ont été trouvés. Mais la preuve, on l'a à travers les lettres échangées entre Albert Einstein et Mileva. Et quand Albert a écrit en 1901, « Ah, que je serai fier quand nous aurons tous les deux complété ensemble nos travaux sur le mouvement relatif. »
Il est temps de faire une petite pause sonore. On écoute la chanson « Matilda » du groupe Alt-J.
This is wrong, this is wrong, this is from Matilda.
C'est une chouette chanson, mais son titre et ses paroles n'ont rien à voir avec l'invisibilisation des femmes en science. On s'approche doucement de la fin, mais on ne conclura pas l'émission sans un peu de jeu. On retrouve maintenant Alice pour le caps ou pas caps.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile.
Quelle émission formidable! On a parlé d'une scientifique extraordinaire, Mileva Maric, de l'effet Matilda, de plein de choses qui étaient super intéressantes. Alors moi, avant que l'émission ne touche à sa fin, je vous propose de faire un petit jeu. Mais faisons ça. Ce sera un petit quiz à l'instar de questions pour un champion. Il comportera 4 questions qui s'inscrivent dans la thématique de cette émission, science, féminisme et personnes qu'on a oubliées. Surtout, n'hésitez pas à me couper, à m'interrompre, à me poser des questions. On est là pour kiffer. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts?
Oui.
Oui,
c'est
parti.
Et ben, c'est parti pour la première question. Question physique.
Allez.
Cléo, attention parce que tu peux tricher sur celle-là. Je suis une découverte scientifique. La physicienne autrichienne Lise Meitner a été ignorée par le prix Nobel en 1944, tandis que son collègue Otto Hahn a été récompensé, lui, uniquement. Je suis un phénomène physique au cours duquel un noyau atomique lourd est scindé en deux polarités.
C'est la fission nucléaire.
C'est la fission nucléaire, ah, mais tout à fait. Et cette réaction est accompagnée d'une libération d'une grande quantité d'énergie. Je suis au cœur du fonctionnement de la bombe atomique. Qui suis-je? La fission nucléaire. Bravo, Marie.
Ouais.
Ceux qui connaissent pas cette chanson, c'est Kraftwerk. C'est un des groupes pères de l'électro. Et je suis un peu stressée parce que c'est pas tout à fait l'extrait que j'avais fait sur Adobe Audition et j'ai peur que tous mes extraits soient foirés.
Très bien.
Bah faisons ça.
Mais au pire, c'est à chier. Allez. Donc on connaît un petit peu le chimiste allemand Otto Hahn pour ses travaux sur la fission nucléaire, un des pères de la chimie nucléaire comme on l'appelle. Mais on connaît un peu moins Lise Meitner, même si Cléo nous a fait une chronique brillante sur l'effet Mathilda. Cette physicienne autrichienne a énormément travaillé sur la radioactivité et la physique nucléaire, mais bien qu'elle ait été nommée 49 fois au prix Nobel, elle n'a jamais reçu cette récompense. Et notamment, le fait qu'elle n'ait pas reçu le prix Nobel en 1944, qui était décerné pour la découverte de la fission des noyaux lourds, bah ça fait aujourd'hui un peu parler. Bien!
Allez.
Ça vous a plu?
Ouais.
C'était super, Alice.
Et bah
ça. Moi aussi, j'adore les noyaux. Ça part sur une deuxième question.
Allez.
Une question botanique.
On écoute.
Je suis une plante. Plus précisément, une famille d'arbustes.
Une hortensia.
J'ai. Belle tentative. J'ai été découvert et caractérisé au XVIIIe siècle par la botaniste Jeanne Barret, la première femme à avoir accompli un tour du monde en bateau. Malheureusement. Les femmes étant interdites sur ce genre d'embarcation, mon nom n'est pas tiré de celui de Jeanne Barret, mais de Louis-Antoine de Bougainville, qui est...
Oh bah c'est le Bougainvillier.
Oh là
Allez.
Là
Marie
qui rafle tout, le Bougainvillier. Je vais vous parler un petit peu sur cette petite musique un peu hot. Une musique qui s'appelle Bougainvillier, par le groupe Les Bougainvilliers. Allez, anecdote Bougainvillier. Jeanne Barret dut se travestir en homme pour participer à l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville. Elle est découverte à la moitié du voyage et les marins décident de la garder dans l'aventure malgré tout. C'était la compagne et collaboratrice du botaniste Philibert Commerson et on doit à ce couple et à l'expédition la découverte de nombreuses espèces végétales, par exemple les premiers spécimens de bougainvillier. Mais l'essentiel des découvertes botaniques fut attribué à Commerson seul. Par exemple, 70 espèces végétales portent son nom. Voilà. Il faudra attendre le 21e siècle pour que Jeanne Barret soit à son tour immortalisée avec la description de l'espèce Solanum barrettiae, pour Jeanne Barret, une plante herbacée de la famille des Solanaceae. C'était Jeanne Barret, mesdames et messieurs.
Bravo Jeanne.
Elle est où Jeanne?
Elle est peut-être dans la troisième question. Une question géologie. Je suis un modèle scientifique.
Un caillou.
J'ai été théorisé à partir du concept de la dérive des continents qui est développé au XXe siècle par Alfred Wegener. Ce modèle consiste à expliquer la dynamique globale de la lithosphère terrestre, qui est l'enveloppe rigide de la surface de la Terre, qui comporte à la fois la croûte terrestre et une partie du manteau. Mon modèle subdivise la surface de la Terre en morceaux, soumis à des mouvements variés, convergents,
Est-ce
divergents, transformants.
Je pense que Marie a la réponse.
C'est la tectonique.
Bien sûr, les mouvements sont associés à des phénomènes géologiques remarquables comme des séismes, du volcanisme, la formation de chaînes de montagnes, une fosse océanique. Mon nom est la combinaison d'une musique et une danse très à la mode dans les années 2010 et du nom de mes morceaux qui s'appellent des plaques. Je suis la tectonique des plaques.
Keep it together.
La tectonique des plaques.
séisme.
Vocalisme.
Bonjour.
Ouais.
Densité.
Subduction.
Ok.
Basalte.
Moi, j'ai rien retenu de mes cours d'SVT du collège, sauf la technologie des plaques. C'est le seul truc
c'est
que j'ai retenu.
C'est le plus simple.
Et pourtant, je l'ai revu après et c'était un peu moins marrant. Dans le supérieur. Petite nota bene sur l'effet Matilda, le concept de la dérive des continents qui précède le modèle de la tectonique des plaques a notamment été permis grâce à la sagacité de Mary Tarp, une géologue et cartographe océanographe américaine. Elle découvre en 1952 des rifts dans les fonds marins, qui sont des fossés d'effondrement de la croûte terrestre, et elle en conclut que c'est des pans de la croûte terrestre qui dérivent. Mais son collègue géologue Bruce Hazen considère que son interprétation est une hérésie scientifique et un truc de fille. Donc jusqu'en 1965, elle ne peut participer à aucune des 33 expéditions menées par Hazen, et lui, il tente d'expliquer sa découverte, enfin la découverte de Tarp, par la théorie de l'expansion terrestre qui ensuite sera considérée comme complètement fausse. Donc, merci mec, ça valait le coup.
Est-ce que Marie, elle était tarpin vénère?
Est-ce qu'elle fumait des tarpés?
Allez, on va passer sur la quatrième question. C'est une question sociologique. Quatrième et dernière question. Mmh. Vous êtes triste.
Oui, ouais. On est dévastés.
Je suis un effet sociologique. Il faut trouver mon nom. Je suis.
Ah, je sais.
C'est pas l'effet métal d'un.
Non,
je suis théorisée par le sociologue américain Robert King Merton en 1968. Similaire à l'effet Matilda, je traite également d'une situation où un scientifique est mis dans l'ombre d'un autre scientifique. Mais cette fois-ci, ma discrimination n'est pas liée au genre, mais à la popularité. On parle de moi lorsqu'un scientifique éminent obtient plus de crédit qu'un chercheur relativement inconnu, même si son travail est partagé ou similaire. Et mon nom est tiré d'une phrase de l'évangile selon saint Matthieu, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance.
Exactement.
Oui.
Ouais.
Et pertinent le gars. Bravo
Sacha.
Et donc c'est l'effet Matthieu. Et là ce qui est dommage c'est que les extraits n'ont pas été coupés comme je voulais, mais c'est une musique absolument formidable qui parle de l'extrait Matthieu, puisque ça parle de la queen à nous tous, Lady Gaga. Fame, Lady Gaga.
Matthieu. C'est l'effet Matthieu.
Vous êtes un scientifique plus connu. C'est peut-être parce que vous êtes moins stylé.
T'as moins publié, mon gars. Ton indice H.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes celles qui ont participé. Et merci à Pauline Gagnon de nous avoir accordé de son temps. Sans les femmes, les sciences n'avanceraient pas. On se dit à dans un mois et d'ici là, retrouvez-nous sur Instagram et ex-Twitter à l'adresse HH Scientifique. A bientôt!
Période!
Bon, bah, il y a messieurs, hein. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.